Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Myriam.
Je vous décerne le prix de Nobel de choriste.
On s'entraîne.
On est synchro, effectivement. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Et à la une histoire de France. Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Vous entendrez la fierté de l'écrivaine, 82 ans, dans un instant.
Et si vous n'avez jamais lu Annie Ernaux, on vous conseillera aussi ses meilleurs livres.
Et puis on va vous raconter son histoire, celle d'une jeune fille issue d'une famille modeste, devenue la voix des femmes et des oubliés, pour paraphraser Emmanuel Macron. Les autres titres de l'actu maintenant, Marion.
Le plan sobriété du gouvernement pour l'hiver, mais pas que, ce sera aussi à plus long terme. Et des entreprises à la fonction publique, des réactions partagées. À suivre aussi un assassinat, un dossier d'enquête perdu et un procès qui n'a jamais pu se tenir. La France condamnée aujourd'hui par la Cour européenne des droits de l'homme.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL s'intéresse aux otages français en Iran, agents secrets d'après le régime qui les met en scène. Le Quai d'Orsay nie et condamne. 18h15, notre invité sera Amin Elbaï. Il sort un livre, Je ne me tairai pas. Ce jeune homme vit sous protection depuis qu'il a dénoncé le communautarisme dans sa ville de Roubaix. C'était dans un reportage de Zone Interdite sur M6 il y a quelques mois. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, nous sommes à un mois de la route du Rhum et RTL va vous embarquer sur un géant des mers avec l'un des favoris. Sensation vraiment garantie. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Sini et toute la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu.
Ce soir, on défait les réserves de gaz. Les stocks sont au plus haut. Mais il est où ce gaz de secours? Comment on le conserve? Vous allez tout savoir. Au menu également, la future star du basket mondial. C'est un Français de 18 ans qui a déjà mis l'Amérique à ses pieds. Enfin, un petit voyage, Normandie-Maroc, en Rosalie. Oui, vous savez, la voiture à pédales.
Très bien. Gros mollet. 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont et puis le temps très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain.
Du beau temps après dissipation des grisailles matinales.
On achète, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
C'est l'histoire d'une fille d'épicier devenue prix Nobel de littérature, l'histoire d'une ascension sociale omniprésente d'ailleurs dans l'œuvre d'Annie Ernaux.
L'écrivaine de 82 ans, agrégée de lettres modernes, professeure de lycée, récompensée à la mi-journée, première française à décrocher ce prix. Bonsoir Bernard Lehu.
Bonsoir.
Vous êtes au siège de son éditeur historique Gallimard, où Annie Ernaux vient de s'exprimer.
Oui, et ça vient de se terminer à l'instant. Je peux vous dire que c'était l'affluence et l'effervescence des jours historiques dans le salon bleu de chez Gallimard, assise en jean et pull à côté d'Antoine Gallimard, devant caméra et micro de la presse française et internationale. Eh bien, Annie Ernaux a raconté comment elle avait appris l'attribution de son Nobel.
Il m'est arrivé de dire que je voulais venger ma race. C'était, à l'époque où je le disais, c'était un peu un vœu, pas en l'air, mais au fond, je ne savais pas comment. Et c'est venu avec les mots, avec les livres. Je pense donc à tous les gens obscurs, à ma famille, mais bien au-delà.
Alors ça, c'est le commentaire qu'elle a fait, elle, la fille d'anciens ouvriers devenus petits épiciers à Yvetot en Normandie, le commentaire qu'elle a fait en évoquant ses origines et ce qui l'avait poussé à écrire. Et je vous propose maintenant de l'écouter raconter comment à la mi-journée elle a appris l'attribution de son prix.
Je crois que j'étais dans la cuisine, je voulais être sûre et donc d'écouter la radio. Donc la radio est dans la cuisine. Voilà, c'est tout simple. Et j'étais seule, si vous voulez savoir. Aussi. Comment j'étais habillée? Non.
Annie Ernaux a confirmé qu'elle ne se défilerait pas. Elle ira bien le 10 décembre prochain prononcer son discours de remise du prix à Stockholm.
Toujours une bonne idée d'écouter la radio. Ce Nobel, il vient couronner une œuvre presque autant autobiographique qu'historique sur la France depuis l'après-guerre.
Annie Ernaux, sa vie, son œuvre. Alors si vous ne l'avez jamais lu, Annie Ernaux, il n'est évidemment pas trop tard. Vous avez choisi pour nous, Bernard, 5-6 ouvrages. On attend vos conseils tout à l'heure dans Laissez-vous tenter dernière. Ce sera dans une demi-heure.
RTL Soir.
De la théorie à la pratique, ou quand la fin de l'abondance, entrevue par Emmanuel Macron, se concrétise.
Avec l'annonce du plan de sobriété énergétique cet après-midi, autrement dit consommer moins de gaz et d'électricité pour passer l'hiver, un impératif que vient de rappeler d'ailleurs la Première Ministre Elisabeth Borne.
La sobriété énergétique, ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance. C'est éviter les consommations inutiles et ne pas consommer tous au même moment. Ce sont des gestes parfois anodins, mais qui, à grande échelle, ont un impact considérable. Des gestes qui allègent nos factures, des gestes qui réduisent notre empreinte sur le climat.
Un discours déjà bien rodé de la Première ministre que vous avez suivi pour RTL. Arnaud Touche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte de Versailles à Paris, où le gouvernement avait soigné le décor et dépêché pas moins de 9 ministres pour tenter de convaincre le plus grand nombre.
Absolument, avec une petite musique d'introduction à chaque table ronde. Et donc presque une dizaine de ministres dans la salle, avec une vue imprenable sur la tour Eiffel. Le gouvernement veut montrer aux Français qu'il est urgent de faire des économies d'énergie partout où cela est possible. Dans les transports, les entreprises, le public, le privé, le sport. Et l'État doit montrer l'exemple. Voilà pourquoi tous les ministres n'avaient qu'un seul mot à la bouche.
La sobriété énergétique.
On opère ce plan de sobriété.
Plan de sobriété dans les entreprises.
Dites donc, je vous rappelle qu'on a des engagements à prendre en matière de sobriété.
Mot décliné un peu partout dans la salle et sur les écrans également.
Voilà, cette sobriété été martelé, on l'entend, hein, pour cet hiver, mais aussi au-delà, Arnaud.
Oui, même si tout au long, effectivement, des tables rondes, on comprend bien que ces 10% d'économies d'énergie demandées pour cet hiver le seront très probablement aussi pour les hivers prochains. Ce n'est pas un phénomène de mode, a prévenu Elisabeth Borne. Il faut prendre des bonnes habitudes dans la durée, a insisté la Première ministre sur scène. Pour l'instant, il s'agit surtout de bonnes pratiques, sans réelles sanctions, mais un objectif clair, tenter d'éviter les coupures de courant cet hiver grâce aux efforts des Français.
Voilà, des incitations donc et des éco-gestes soulignés. Dans le détail, pas de nouvelle annonce hein, cet après-midi, mais des mesures phares réaffirmées. Chauffage à 19 degrés dans les appartements ou les bureaux. Incitation au covoiturage via un bonus de 100 euros à l'inscription début 2023.
Nous sommes prêts et c'est déjà lancé sur les entreprises, à l'image de Rodolphe Dugon, patron d'une petite entreprise de mobilier en Ile-de-France.
Il faut savoir que nous, dans les boîtes, on n'a pas attendu. Je sais que ce n'est pas contraignant les annonces de la Première ministre, mais on n'a pas tendu pour être sobre. C'est simplement pour nous du bon sens. C'est la chasse au gaspillage des années 80 qui revient en 2022 maintenant. C'est le bon sens qu'on a toujours, nous, je pense, appliqué. Peut-être que certains ont oublié de l'appliquer. On a un devoir, nous, de faire en sorte que nos coûts de production soient efficaces. Et pour ça, évidemment, toute la consommation énergétique, et on en tient beaucoup compte.
Voilà, patron de TPO au micro RTL de Pierre Herbulot.
Et si l'État entend montrer l'exemple en développant notamment le télétravail dans la fonction publique avec augmentation de l'indemnité dédiée, les agents, eux, s'interrogent. Vous l'avez constaté, hein, Valentin Boissé, devant l'un des plus grands bâtiments de l'administration, le ministère de l'Économie à Bercy, où vous avez croisé des fonctionnaires partagés.
Oui, et dès aujourd'hui, certains ont reçu des mails hein, pour réorganiser les services. Cédric travaille au ministère des Finances.
Enfin, je suis déjà partant sur l'idée de travailler à la maison. Et à partir du mois de décembre, je pourrais avoir 2 jours de télétravail par semaine.
Voilà, son étage pourra ainsi être libéré. Le chauffage éteint. Il y a ici 200 000 mètres carrés de bureaux. Ça signifie aussi moins d'aller-retour en voiture. Mais les deux collègues de Cédric esquissent un sourire à sa droite.
Par rapport à l'énergie, ça aura réellement un impact? Même pas en fait, moi je pense pas, parce que finalement on sera chez nous, donc on va chauffer aussi.
Si on fait des économies ici, est-ce qu'on va en faire chez nous? Parce que qui dit télétravail dit plus de chauffage, plus d'électricité, l'ordinateur, etc.
L'écologie par le télétravail, oui, mais pour certains foyers de fonctionnaires, cela semble compliqué financièrement. L'aide au télétravail va passer de 2,50€ à 2,88€ par jour. Pas de quoi convaincre donc Sylvie.
À mon avis, c'est un peu juste. C'est juste. Quand on voit les factures de gaz, je pense que c'est pas très gros hein, comme subvention.
Alors, il faut bien préciser que la mesure n'est pas obligatoire. Elle est pour le moment basée sur le volontariat.
Ce soir, dans un communiqué commun, agriculteurs, industriels, distributeurs appellent l'État à aller plus loin. Pour eux, ça ne suffit pas. Il faut plafonner les prix de l'énergie.
Et les associations défense de l'environnement, elles réclament un suivi de l'application de ces mesures pour s'assurer de leur efficacité.
Dans les Hauts-de-France, face aux difficultés d'approvisionnement, 30% des stations, hein, certaines stations essence sont désormais réservées aux véhicules prioritaires.
Ça concerne une trentaine de stations dans le Nord et le Pas-de-Calais, comme ici dans la métropole lilloise. Vous vous êtes rendu, Franck Hanson, dans cette station réquisitionnée hein, pour les professionnels de santé.
Vous avez une carte ?
Oui, il a fallu mettre en place un agent de sécurité pour réguler les accès. Soulagement pour ses soignants. Camille Lecoustre, infirmière à Armentières, avait dû annuler certaines visites.
Ça fait 2 jours que je galère. Là, c'est ma soeur qui vient de m'appeler en me disant « Dépêche-toi, si t'es professionnel dans la santé, ils te laissent passer. » Donc j'ai tenté tout de suite. Je commençais vraiment à regarder le nombre de kilomètres qui me restaient en autonomie et à faire des restrictions de patients si les distances étaient trop longues. Quoi. Là, je suis rassurée aujourd'hui, en tout cas, pour les jours qui suivent.
Les stations avec accès prioritaire dans le Nord et le Pas-de-Calais restent malgré tout en nombre limité, regrette ce livreur pour laboratoire.
On a eu
la chance que maintenant, ils donnent la priorité pour les gens qui travaillent dans le médical. Mais ce n'est pas le cas de toutes les stations, malheureusement. Pour ne pas vous mentir, j'ai fait 6 stations avant.
Certains automobilistes ont malheureusement du mal à comprendre ces laissés-passer. Quentin, le responsable de cette station d'hypermarché, en est témoin.
Je suis réquisitionné. Ça ne vous sert à rien.
Sans aucune preuve de caducé, de carte pro, on ne les fait pas rentrer. Même s'ils nous disent qu'ils sont médecins ou autres, il y en a qui essayent, qui forcent. Ouais. Ils vous insultent ou voilà. Le camion que vous voyez juste à côté de moi, je devais avoir 37 000, j'en ai eu que 18 000. On se fait vider plus vite qu'on arrive à avoir des camions.
Les préfets en appellent au civisme des autres usagers de la route.
Okay. La situation aussi tendue hein, dans la région de Marseille, auprès d'une station sur trois, est en rupture d'essence et de gasoil, d'après une application. L'inquiétude de la France pour deux de ses ressortissants en Iran. Deux syndicalistes arrêtés au printemps dernier. Téhéran assure aujourd'hui avoir obtenu d'eux des aveux d'espionnage pour le Quai d'Orsay. Tous deux sont des otages de l'État iranien.
Qui sont ces otages? On se posera la question avec la brigade RTL dans quelques minutes. Votre journal se poursuit juste après ça dans RTL Soir. Un dossier d'enquête perdu et donc un procès pour assassinat empêché. La France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. A tout de suite.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
18h12, la suite de votre journal dans RTL Soir. Un meurtre, un dossier d'enquête perdu et un procès qui n'a jamais pu se tenir. La France vient d'être condamnée aujourd'hui pour les manquements de sa justice.
Dans une affaire de meurtre que l'on découvre aujourd'hui, celle de Mohamed Abdelhadi en 2001, un homme avait avoué le crime mais il n'a jamais été jugé à cause de ce dossier perdu. Et aujourd'hui, Cindy Hubert, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme ouvre la voie à un possible procès.
Oui, pour la première fois, la justice reconnaît qu'il y a eu des dysfonctionnements majeurs dans cette enquête. L'État français se doutait d'ailleurs de cette condamnation. Il a donc pris les devants en proposant à la famille une indemnisation, 36 000 euros de compensation. Mais nous ne voulons pas d'argent, balaye Rachida, la grande sœur de Mohamed Abdelhadi. Ce que veut la famille, ce qu'elle a toujours voulu, c'est un procès, alors que les meurtriers présumés vivent leur vie tranquillement, dit-elle, sans être inquiétée.
On ne peut pas laisser des meurtriers qui ont avoué un crime odieux qu'ils ont gardé en secret, notre frère, pendant 7 années dans une cave, dans un sac poubelle, et 8 années dans un bois. Ils ont vécu 15 années en toute impunité. Alors oui, ils sont dangereux pour la société.
Mais avant d'espérer ce procès, il y a encore toute une série d'obstacles, explique leur avocat, Maître Spinozzi.
Il va nous falloir repasser devant la commission de réexamen, obtenir que la commission de réexamen saisisse elle-même de nouveau la Cour de cassation et que la Cour de cassation revienne sur sa précédente décision.
Tout cela pourrait prendre au moins un an. Bref, le chemin est long, mais la famille promet qu'elle se battra jusqu'au bout.
Cindy Hubert, merci. Le foot ce soir, 18h45, la Ligue Europe, Monaco face aux Turcs de Trabzonspor. Nice en Ligue Europe conférence à 18h45 également affronte les Tchèques du FC Slovako et à 21h, Rennes face au Dynamo Kiev.
Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps demain, Peggy.
Encore alors, une belle journée après dissipation des grisailles matinales et des bandes brouillard surtout du sud-ouest au nord-est. On trouvera du soleil, parfois un peu voilé l'après-midi, mais l'impression restera belle, sauf au pied des Pyrénées, où là le ciel va se charger l'après-midi avec des averses sur les reliefs, sous des températures qui restent douces pour la saison, de 17 à 21 au nord et 22 à 26 au sud.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et la brigade RTL s'interroge ce soir. Qui sont donc ces otages français en Iran? Le régime y publie aujourd'hui une vidéo de ces deux syndicalistes prisonniers depuis 5 mois. On va poser 3 questions à Émilie Beaujard pour RTL. Bonsoir Émilie.
Bonsoir.
Que voit-on exactement sur ce film?
Alors on y voit les deux Français, Cécile Kohler, voilée, avoue être une agent de la DGSE, son compagnon Jacques Paris aussi. Ils s'expriment en français séparément dans ce qui ressemble à des chambres d'hôtel. Ils disent aussi être venus en Iran avec argent et armes pour financer les manifestants et déstabiliser le régime iranien.
Mais qui sont-ils alors ces Français? Depuis combien de temps sont-ils détenus?
Alors Cécile Kohler et Jacques Paris étaient en fait en vacances en Iran pendant les vacances de Pâques, donc en mai 2022. Ouais. Ils ont été arrêtés à Téhéran au moment où ils allaient prendre leur avion retour. On était alors là le 8 mai dernier. Très vite, les autorités iraniennes les ont accusés d'être des espions venus déstabiliser le pays. Ce qu'on sait, c'est qu'en France, ces deux Français sont membres du syndicat enseignant de Force ouvrière. Et pendant leur visite en Iran, ils ont, semble-t-il, rencontré des syndicalistes iraniens. Tout ça dans un contexte de manifestation du corps enseignant contre le régime des mollahs. Alors, savaient-ils que cela pouvait leur attirer des ennuis ? impossible de le lire pour l'instant.
La France a réagi ce soir.
Oui, le Quai d'Orsay a vivement réagi dans un communiqué. Cette vidéo est une mascarade, ce sont ses mots. Et la France demande à nouveau leur libération immédiate. Leurs prétendus aveux estorqués sous la contrainte n'ont aucun fondement, pas davantage que n'en avaient les motifs invoqués pour leur arrestation arbitraire, ajoute le Quai d'Orsay, qui va même jusqu'à parler d'otages d'État. Rappelons que deux autres Français sont détenus en Iran, le touriste Benjamin Brière et la chercheuse Fariba Adelra.
Les explications d'Émilie Bojard pour RTL. RTL Soir, la suite, c'est dans un instant. Et notre invité sera Amine Elbaï. Il sort un livre, Je ne me tairai pas. Ce jeune homme vit sous protection policière depuis qu'il a dénoncé le communautarisme, le séparatisme dans sa ville de Roubaix. C'était dans un reportage de Zone Interdite sur M6 il y a quelques mois. On le retrouve juste après ça, tout de suite.
18h, 19h15.
RTL Soir. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez toujours RTL Soir et notre invité maintenant est Amine Elbaï, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, vous avez 26 ans et vous publiez « Je ne me tairai pas », un livre chez Robert Laffont. Alors le grand public a découvert votre visage en janvier dernier dans un reportage de Zone Interdite sur M6. Vous y racontiez le communautarisme dans votre ville de Roubaix. Alors depuis ce reportage, vous avez vécu avec les menaces et une protection. Vous écrivez un livre assez intime finalement, qui s'ouvre d'ailleurs sur une scène saisissante dans votre famille, et c'est le point de départ pour qu'on comprenne votre cheminement, de votre combat. Votre grande sœur Leïla vous dit, et vous l'écrivez, « Je m'en vais au marché, à tout à l'heure ». Mais en fait, elle ne part pas au marché, elle part en Syrie, et vous racontez dès le début du livre les heures d'angoisse qui suivent.
Oui, tout à fait. J'ai voulu dire ce pourquoi je me suis engagé face à l'islamisme. Et mon combat ne date pas uniquement de janvier 2022, à l'occasion du reportage sur Zone Interdite. Mon combat commence bien plus tôt. Il commence depuis 2014, lorsque j'assiste à la radicalisation de ma propre sœur, que je la signale au numéro vert mis en place par les gouvernements.
Et là, il n'y a aucune suite.
Aucune suite n'est apportée à mes signalements. Il faut bien replacer le contexte. On est en 2014, bien avant les attentats. Ouais. Et peu de fonctionnaires sont formés et ne comprennent le phénomène djihadiste.
Et le départ est très brutal, parce que vous racontez la chambre vide, vous appelez votre maman qui n'est pas là à ce moment-là et qui craque au téléphone.
Oui, je me souviens l'avoir appelé. Au moment où j'appelle ma maman pour lui annoncer que sa fille, c'est-à-dire ma sœur, part en Syrie, ma maman tombe, elle était en vacances, et je dis dans mon livre à quel point ça a été brutal. Et là, toutes les questions se sont posées sur son éducation, sur notre manière de vivre. Nous-mêmes, nous avons culpabilisé. Mmh. Nous sommes posé des questions, nous sommes demandé si c'était finalement de notre faute. Sauf que après de grandes réflexions, et aujourd'hui, 8 années plus tard, je peux vous dire que rien dans son éducation ne laissait présager
un tel départ.
Un tel départ.
Ouais. Ce départ, c'est donc en 2014, et depuis, vous avez gardé le contact avec votre sœur. Elle a été condamnée, d'ailleurs, ici en France. Son mari, un combattant de Daesh, est mort. Et elle a eu 2 enfants là-bas, 5 et 7 ans. Des enfants, vos neveux, que vous n'avez vus pour l'instant que sur un écran de téléphone.
Oui, tout à fait. Elle a été condamnée à la peine de 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises des mineurs de Paris. Et je vais vous faire une confidence. J'ai découvert sa filière de recrutement le jour du procès. Moi qui ignorais tout de la façon dont elle est partie, j'ai appris beaucoup de choses le jour du procès. J'ai appris le rôle des réseaux sociaux dans la radicalisation. J'ai appris également qu'une bonne partie de sa filière de recrutement était surveillée par les services de police. Et d'ailleurs, une bonne partie a pu être jugée et l'État a fait en sorte que cette filière de recrutement ne parte pas en Syrie. Mais une autre partie de la filière, dont ma sœur, on peut se rendre en Syrie. Aujourd'hui, elle se trouve détenue dans le camp de Roj, au nord-est de la Syrie, par les forces kurdes, avec près de 200 femmes et près de 300 enfants.
On a la sensation que la doctrine du gouvernement est en train de changer. Ce n'est pas officiel, mais on a des premiers retours, en tout cas, de femmes, d'enfants qui sont dans ces camps en Syrie. Vous espérez, j'imagine, pouvoir retrouver en chair et en os ces neveux que vous avez, pour l'instant, simplement vus sur un écran de téléphone.
Oui, bien sûr, j'espère retrouver ces enfants qui sont détenus dans les camps. J'espère pouvoir les sauver d'une organisation terroriste. Je veux faire en sorte que ces enfants ne deviennent pas des bombes à retardement. Je veux à la fois leur apporter tout l'amour qui leur est dû et je veux aussi assurer la sécurité des Français.
Dans le livre, vous racontez alors aussi votre trajectoire, la découverte de la politique à l'échelon local, national, aux côtés de Valérie Pécresse lors de la dernière présidentielle. Tiens, il y a un débat qui agite la classe politique en ce moment. Les signalements pour port de tenue religieuse à l'école, les abayas, parce qu'ils augmentent ces signalements. Quel est votre regard? Parce que vous dites dans le livre, En sixième, on demande aux collégiens, en quelque sorte, d'enlever leur voile, mais sans leur expliquer pourquoi. Vous expliquez que c'est le problème, en quelque sorte.
Oui, c'est le problème parce que nous avons toujours traité la question de la laïcité sur une seule approche sécuritaire et pas uniquement sur une approche inclusive, pédagogique. Expliquez aussi pourquoi on vous demande de retirer ce voile. C'est très important. Il faut que l'État soit davantage présent. Il faut assurer, bien évidemment, et faire respecter la loi de 1905. Mais pour cela, et c'est ce que je plaide, je dis qu'il faut un ministère de la laïcité et un ministère des cultes. Parce que le ministère de la réconciliation, le ministère du dialogue avec les cultes, et en particulier avec l'islam de France, ne peut plus être le ministère de la police. La réponse ne peut pas être uniquement sécuritaire. Elle doit être proportionnelle, elle doit être adaptée, et on doit également accompagner nos plus de 4 millions de musulmans pour lutter avec eux contre l'islamisme.
Alors, on le disait en préambule, votre vie a basculé en janvier dernier. Reportage de M6, vous guidez une journaliste chez vous à Roubaix, vous racontez la montée du communautarisme, c'est un sujet qui a beaucoup fait parler. On y filmait notamment des fameuses boutiques avec des poupées sans visage. Très vite, vous l'écrivez dans le livre, vous recevez le soir de la diffusion des menaces de mort, on vous laisse des messages, on vous dit on va t'égorger, on imagine la violence de ces messages. Comment vous avez réussi à tenir le choc dans les heures qui ont suivi?
Le jour où j'ai reçu des menaces de mort, j'ai d'abord pensé à mes parents, et en particulier à ma maman, qui nous a élevés seuls, et qui nous a toujours donné cette force de nous battre face à tout ce qu'elle a pu endurer. Vous savez, lorsque j'ai reçu ces menaces de mort, j'ai compris que ces menaces n'allaient jamais m'atteindre personnellement. Parce que j'ai connu pire. Je me suis remémoré de la radicalisation de ma sœur. Je me suis remémoré de tous mes engagements, de tout l'engagement que je porte depuis 2014 contre l'islamisme. Et j'ai décidé de faire en sorte que ces menaces m'aident à prendre la parole, me permettre de poursuivre ce combat républicain au service de l'État, au service de la République. Pourquoi ? Parce que je me mets à la place des Françaises et des Français qui ne comprennent pas ce qu'est l'islamisme, et eux aussi, ils ont besoin de comprendre.
Ces menaces, est-ce qu'elles ont cessé ? Parce que vous vivez sous protection désormais, il y a des policiers qui vous suivent au quotidien.
Oui, tout à fait. Mais moi, je n'ai plus de vie. J'ai 26 ans, je n'ai plus de vie. J'ai dû renoncer à mes libertés. J'ai écrit ce livre dans un contexte de menace de mort. On a essayé de me faire taire. Et ce que je dis dans le livre également, je ne dis pas uniquement qu'on a essayé de me faire taire, je dis également que j'ai assisté au bal des lâches, au bal des hypocrites. Souvenez-vous, après les attentats de Charlie Hebdo, nous étions debout sur la place de la République, à Paris, debout pour prouver la force de la nation, pour jurer que nous n'allons pas nous taire face à l'islamisme. C'est ce que je dis et c'est ce que je fais dans mon livre. Moi, je dis que la laïcité et la place de l'État sera toujours au-dessus des religions.
Merci Amine Albaï d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Vous signez donc « Je ne me tairai pas », et on l'a bien compris ce soir, et c'est publié chez Robert Laffont. Merci.
Merci à vous.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Et dans quelques secondes, RTL Soir va continuer. Il y aura vos dessous de l'actu. Nous sommes à un mois tout pile du départ de la route du Rhum et RTL va vous embarquer sur le géant des mers du skipper Charles Caudrelier. Sensation vraiment garantie, vous l'entendrez. Et puis laissez-vous tenter dernière. Pour ceux qui n'ont jamais lu Annie Arnaud, petite sélection de 5 livres de la nouvelle prix Nobel de littérature. A tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 19h15, RTL Soir avec Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
On vous informe, on vous étonne, c'est RTL Soir et il est 18h30.
RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
Marion Calais vous rappelle les trois titres de l'actu de la journée.
Le Quai d'Orsay dénonce une mise en scène indigne et révoltante après la diffusion par l'Iran d'une vidéo présentée comme des aveux d'espionnage de deux Français, deux syndicalistes arrêtés sur place au printemps dernier. 400 km² regagnés dans la région de Kherson depuis le début du mois. Les reconquêtes chiffrées de l'Ukraine devant 44 dirigeants européens réunis à Prague. Volodymyr Zelensky a appelé à de nouvelles livraisons d'armes. Et puis la Ligue Europa. Dans un quart d'heure, Monaco face aux Turcs de Trabzonspor à 21h, Rennes face au Dynamo Kiev, Nantes à Fribourg et puis en Ligue Europe Conférence, Nice face aux Tchèques du FC Slovaco à 18h45.
Merci Marion. Le temps demain, Peggy, c'est pas mal.
Une belle journée, c'est le moins qu'on puisse dire, Julien, avec après dissipation des grisailles matinales du sud-ouest au nord-est, avec peut-être un ciel un petit peu voilé par endroits, quelques nuages mais des nuages de beau temps. Il n'y a que sur le relief des Pyrénées où dans l'après-midi le ciel sera plus nuageux avec quelques averses, le tout sous des températures encore 12 pour la saison, de 17 à 21 au nord et de 22 à 26 au sud.
Merci Peggy, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, cher Peggy, parce que nous embarquons.
Ah, allons-y alors.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
Et vos dessous de l'actu maintenant. Alors, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, parce que c'est RTL en immersion hein, à présent. On va embarquer sur un géant des flots, un trimaran ultime à un mois de la route du Rhum. Bonsoir Frédéric Veil.
Bonsoir.
Vous avez pu monter pour un entraînement avec l'un des favoris de la légendaire course, c'est ça ?
Effectivement, j'ai pu passer un après-midi à bord d'un de ces géants des mers. Il a d'abord fallu s'équiper hein, d'une combinaison étanche, prendre un Zodiac pour rejoindre le maxi Edmond Rothschild qui était au large de l'Orient. Ensuite, il a fallu monter à bord, hein, ce qui est toujours un moment un petit peu délicat, surtout quand la mer est formée. Enfin, eh bien, vivre un moment magique aux côtés de Charles Caudrelier, le skipper de ce maxi trimaran.
Oui, c'est les plus grands trimarans du monde. 32 mètres par 23, un mât de 37 mètres de haut. Alors depuis 4-5 ans les bateaux volent, donc on n'est pas dans une évolution de nautisme, on est dans une révolution et on va beaucoup beaucoup plus vite qu'avant et c'est fantastique. Donc je suis l'heureux skipper de ce magnifique bateau. J'aurais jamais imaginé avoir un si beau bateau dans les mains.
Et alors à bord, vos impressions Frédéric ?
Eh bien en fait on se sent tout petit hein, parce que le mât qui porte la grand voile est aussi haut qu'un immeuble de 10 étages. Ouais. Et puis à bord il y a des cordes partout, vous l'entendez certainement, Charles Caudrelier passe son temps à tourner des manivelles, à regarder ce qui se passe au loin, en l'air et sur ses écrans. On est là dans un véritable cockpit d'avion.
Et alors est-ce que vous avez volé ?
Oui, et là c'est hyper impressionnant. Vous l'entendez certainement, on est en train d'accélérer. Écoutez ce bruit, c'est le caractéristique de ces grands trimarans qui, lorsqu'ils sont sur l'eau, la craque tape. Là, on est vraiment, vraiment en train d'accélérer. Le flotteur qui était reposé sur l'eau est en train de se lever petit à petit. Allez, on est presque à un mètre. On est à un mètre au-dessus de l'eau. C'est absolument, absolument extraordinaire. On vole au-dessus de l'eau. 38 nœuds, 39 nœuds. Oh, ça va, il y a une vitesse. C'est fou, là. Toujours ce bruit. Hein. 40 nœuds sur l'eau, c'est surtout qu'il faut se tenir. Quoi. Là, pour tout vous dire, je suis debout au poste de pilotage. Avec quelqu'un qui est en train de me tenir, ça bouge énormément, ça tape. On est sur une autre planète. On est vraiment sur une autre planète.
À 75 km/h, pour ceux qui ne font pas facilement la conversion, 2 km/h, c'était extrêmement impressionnant. Vous avez le cœur bien accroché, cher Frédéric. Merci de nous avoir embarqués à bord de ce maxi trimaran. Et merci à Charles Caudrelier, l'un des favoris de la route du Rhum, de nous avoir ouvert les portes de son géant des mers dans RTL Soir. Merci à tous les deux.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Retour sur Terre à 18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, laissez-vous tenter, dernière. Et donc, comme convenu, on va retrouver Bernard Lehu. Rebonsoir Bernard.
Rebonsoir.
Comme promis un petit peu plus tôt, nous avons entendu Annie Arnaud, la première femme française prix Nobel de littérature, dans le journal de 18h. Et on s'en félicite. Et comme promis, on va maintenant guider nos auditeurs, parce que tout le monde n'a pas lu Annie Arnaud. Ses livres ont tous été des succès, mais vous allez nous en conseiller quelques-uns ce soir. Dites-nous déjà, qu'est-ce qui fait la particularité de cette écrivaine de 82 ans ?
Alors, on dit qu'elle écrit des romans, des livres autobiographiques, ce qui est vrai puisque tout part de sa vie, de son expérience personnelle. Mais là, ce qui fait la caractéristique d'Annie Arnaud et ce qui est une prouesse d'écriture, c'est qu'elle donne à ses souvenirs personnels une dimension collective. Chacune, chacun d'entre nous peut se reconnaître dans ce qu'elle raconte. C'est le reflet on part d'une mémoire individuelle, c'est le reflet d'une mémoire collective. Ça, c'est vraiment très fort chez elle. Écoutez-la nous parler de son travail, de sa conception de la littérature.
Oui, ça fait bizarre, hein, parce que auto, c'est soi. Ce serait que l'autobiographie, ce qui m'avait traversé, ça devienne quelque chose, plutôt une matière collective. C'était la fusion la plus, comme vous avez dit d'ailleurs, la plus étroite entre l'intime et le collectif. C'est le temps et c'est la vie qui m'apporte ce que je vais écrire. Les livres. Ça a toujours été comme ça. Et j'espère... j'ai déjà ma petite idée sur le prochain livre quand même.
Alors, quels sont ces livres majeurs ? Vous nous en proposez 5 ce soir. 5 à lire si on ne les connaît pas encore.
Oui, allez, vous êtes généreux, merci. tout d'abord, il y a Les années, qui est vraiment l'œuvre référence, qui symbolise tout à fait ce qu'on vient d'évoquer, où c'est 60 ans de la vie d'une femme, mais c'est aussi 60 ans de la vie de la société française, avec ses bouleversements, etc., ses évolutions. Ensuite, il y a La place, consacrée à ses parents. Elle a beaucoup écrit sur ses parents, qui étaient des ouvriers devenus épiciers, et elle parle notamment de la notion de transfuge de classe. Elle-même a quitté ce milieu. Ouais, il y a ce sentiment à la fois de fierté, mais aussi toujours quelque part de trahison. Ensuite, il y a l'événement où elle raconte son avortement. Mais attention, à l'époque où cet avortement était encore clandestin. Ouais. Et puis, il y a deux livres, Passion simple et Se perdre, qui, là où elle évoque l'amour, la passion sexuelle, l'adultère. Et puis, j'en ajouterai donc un dernier, parce que c'est le livre qu'elle a publié là, au printemps, ouais. Le jeune homme, un tout petit livre, dans lequel elle raconte son histoire d'amour avec un jeune homme qui, à l'époque, avait 30 ans de moins qu'elle, beaucoup plus jeune. Voilà, une vie pleine de femmes.
Lisez Annie Ernaux. Voilà les six livres conseillés par Bernard Lehu ce soir de la prix Nobel de littérature.
Je précise qu'ils sont tous publiés chez Gallimard ou en poche chez Folio.
Vous avez raison de le préciser. Merci Bernard.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Et dans quelques secondes, dans RTL Soir, on va défaire le monde, les 20 minutes d'infos autrement avec Cyprien Sini, Nerissa Emani, Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
On va défaire notamment les stocks de gaz parce que ça y est, le gouvernement nous l'assure, les réserves sont pleines. Mais elles sont où ces réserves? On le cache où le gaz et comment? On vous dit tout juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.